Radio Prague, les informations.
Le gouvernement a résisté à la motion de censure. Les députés ont d'autre part adopté le budget de l'État pour 2009. L'écrivain Milan Kundera demande une excuse à l'hebdomadaire Respect. Le gouvernement a résisté à la motion de censure présentée par la social-démocratie après la défaite du leader de la coalition gouvernementale, le Parti civique démocrate ODS, aux élections régionales et au premier tour des sénatoriales le week-end écoulé. L'opposition ne totalise pas les 101 voix nécessaires et les députés Olga Zubova et Viera Jakubkova du Parti des Verts, membres de la coalition, se sont absentés, tandis que les rebelles de l'ODS se sont abstenus. La Chambre des députés a adopté les paramètres de base du projet de budget de l'État pour 2009. Le déficit devrait être inférieur d'un peu plus de 1 milliard d'euros à celui de cette année. Pourtant, le gouvernement, lors de l'élaboration du projet, a compté avec une augmentation du PIB de 4,8%, alors que les prévisions comptent plutôt sur 3,8%, en raison aussi de la crise financière, ce qui pourrait bien modifier les calculs gouvernementaux. Ceci a été mis en évidence par l'opposition qui a demandé une révision du projet, mais sans succès. L'écrivain tchéco-français Milan Kundera demande à l'hebdomadaire tchèque Respect de s'excuser pour la publication de l'article sur le fait qu'il aurait dénoncé à la police, en 1950, Miroslav Dvořáček, qui fut ensuite condamné à une longue peine de prison. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi à la radio tchèque Jiří Srstka, directeur de l'agence Dilia, qui représente l'écrivain. Si l'hebdomadaire ne publie pas des excuses, Milan Kundera portera l'affaire en justice. Les représentants de plusieurs dizaines de pays réunis à une conférence à Bruxelles ont décidé d'offrir une aide de 2,5 milliards d'euros à la Géorgie, dévastée par le conflit avec la Russie en août dernier. Dans son allocution, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a déclaré qu'une aide humanitaire et financière ne suffisait pas et qu'il fallait soutenir le développement de l'économie, de la démocratie et les ambitions euro-atlantiques de la Géorgie. L'Union européenne a décidé de l'introduction des cartes bleues qui serviraient à attirer les travailleurs qualifiés des pays tiers dans les États de l'Union. Cependant, à la demande aussi de la Tchéquie parmi d'autres, ces cartes ne commenceront à être utilisées dans la pratique qu'à partir de 2011. La décision prise par les ambassadeurs des 27 devra encore recevoir l'aval des ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne. L'intérêt pour les bons du Trésor émis par la CNB, Banque Nationale Tchèque, qui servent à la garantie des prêts interbancaires, baisse rapidement. D'après les économistes, cela est dû au fait que la crise financière continue de s'approfondir et touche maintenant l'Europe centrale. Ils affirment aussi que les investisseurs étrangers vont brader leurs bons du Trésor dans les jours à venir. Avant la fin du bulletin d'information, la météo, après de belles journées et l'été indien en Tchéquie, la météo nous prévoit un peu de changement avec beaucoup plus de brouillards qui auront du mal à se dissiper et un peu plus de nuages dans le ciel. Les températures devraient aussi sensiblement baisser dans les régions où le ciel restera perturbé, seulement dans les 10 à 12 degrés. Les gelées matinales feront leur apparition et bonne fête au Théodore le 23 octobre selon le calendrier tchèque. C'était Alain Sliminski, Radio Prague, les informations. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous, voici les principaux titres du jour. Le président tchèque Václav Klaus a sévèrement critiqué son homologue français Nicolas Sarkozy sur sa gestion de la crise financière mondiale. Il l'a même accusé dans une tribune écrite de contribuer à la fin du système capitaliste. Fin de citation. Nous vous en dirons plus au début de cette édition. Cinéma avec le prix Arte qui a été attribué à René, un film réalisé par la première dame du documentaire tchèque. Mardi soir, notre correspondant à Paris a assisté à une soirée littéraire tchèque. Il vous en racontera le déroulement. Enfin, on terminera en musique avec le festival MOVE qui s'est déroulé la semaine dernière à Prague pour la 4e année consécutive. Bonne réception de notre programme. Le président tchèque Václav Klaus a qualifié de vieux socialisme les propositions faites par le chef de l'État français Nicolas Sarkozy pour une refonte globale du système financier international. À 2 mois du passage de relais entre la France et la République tchèque à la présidence de l'Union européenne, il est clair que les chefs d'État des deux pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alexis Rosenzweig.
La tentative d'empêcher les crises occasionnelles, les baisses de la croissance économique ou les récessions, ça a déjà eu lieu ici. Ça s'appelait le communisme. Dès l'introduction, le président tchèque, réputé pour son ultralibéralisme et son euroscepticisme, annonce la couleur. Le chef de l'État français, qui préside l'Union européenne, avait auparavant appelé à Bruxelles à fonder un nouveau capitalisme sur des valeurs qui mettent la finance au service des entreprises et des citoyens. Ces propositions ne conduisent pas à un nouveau capitalisme, comme il l'a dit jeudi dernier à Bruxelles. C'est au contraire un retour à un vieux socialisme, écrit le président Klaus en conclusion de sa tribune publiée mercredi par le quotidien le plus lu du pays, Mladá Fronta Dnes. Une tribune dans laquelle il prévient ceux qui n'ont pas connu le communisme de ne pas tomber dans les mêmes illusions et de ne pas commettre les mêmes erreurs fatales que nos ancêtres il y a plusieurs dizaines d'années. Fin de citation. Les critiques formulées par Václav Klaus ont été beaucoup reprises dans la presse française, dans laquelle il avait déjà été noté que la République tchèque était le seul pays à avoir émis des réserves sur le plan européen de soutien aux banques qui a été adopté au dernier sommet de Bruxelles. Et dans la presse européenne en général, on commence à parler d'une extension de la présidence française au détriment de la présidence tchèque. Dans le Courrier autrichien notamment, on peut lire que les voix en faveur d'une telle solution sont de plus en plus nombreuses. Nicolas Sarkozy veut profiter de la crise financière pour imposer sa vision économique de l'Europe et continuer à présider l'Union européenne, en tout cas au niveau de la zone euro, au moins pour une année supplémentaire. Le président français a amorcé mardi cette offensive au Parlement européen. Elle a été confirmée au quotidien français Le Monde par plusieurs conseillers de l'Élysée. Alors, une présidence tchèque amputée ? Qu'elle soit entière ou seulement symbolique, le président tchèque Václav Klaus l'a déjà dit, hors de question de hisser le drapeau européen sur le château de Prague.
La documentariste tchèque Helena Třešťíková s'est vue attribuer le prix Arte de l'Académie du film européen pour son film René dans la catégorie des documentaires. Après l'annonce de sa victoire, Helena Třešťíková a exprimé sa surprise à la télévision tchèque, d'autant qu'à côté des autres films européens nominés, elle avait en face d'elle un concurrent tchèque sérieux.
Pendant tout le temps, j'étais persuadée que s'il y avait un film qui recevrait le prix parmi les deux nominés de République tchèque, ce serait Citoyen Havel. Ma surprise a donc été énorme.
Depuis des dizaines d'années maintenant, le nom de Helena Třešťíková est associé à une certaine qualité de film documentaire. Son opus le plus connu étant son cycle de films consacré à six couples, tournés en 1980 et en l'an 2000. Avec René, du nom du personnage principal de son dernier film, Helena Třešťíková a récidivé avec un travail de longue haleine sur l'histoire d'un homme qu'elle a suivi sur 10 ans. René, c'est le destin d'un délinquant qui a passé la plus grande partie de sa vie derrière les barreaux. Un délinquant qui d'ailleurs, au cours du tournage, a également volé à la réalisatrice la caméra qu'elle lui avait laissée pour qu'il se filme. Le jury de l'Académie du film européen a décidé de récompenser ce documentaire, estimant, je cite, qu'il abordait la relation entre sujet et cinéaste de manière fascinante et invitait à la réflexion. C'est notamment l'universalité de l'histoire qui semble avoir séduit le jury, ainsi que les spectateurs qui ont déjà vu le documentaire. Helena Třešťíková.
J'ai toujours posé la question lorsque j'ai participé à des festivals à l'étranger. Je voulais savoir dans quelle mesure une histoire typiquement tchèque, comme celle de René ou d'autres personnes que j'ai filmées, pouvait fonctionner dans un autre contexte culturel. Bien sûr, les spectateurs sont polis, et je ne sais pas s'ils me diraient franchement le contraire, mais à chaque fois, j'ai quand même entendu qu'il s'agissait d'une histoire universelle.
Hormis le succès remporté par René, notons tout de même que la présence de 2 documentaires tchèques sur 10 films de la catégorie est un signe de la bonne santé du genre en République tchèque. Seule la France avait également 2 nominés. Pour Helena Třešťíková, le prix Arte est une récompense pour le documentaire tchèque dans son ensemble.
Je pense que le documentaire tchèque va très bien. Il y a de nombreux créateurs intéressants issus de plusieurs générations et qui ont des points de vue différents, des façons différentes de raconter les choses. Cette diversité est caractéristique pour le film documentaire tchèque.
Et de rappeler qu'il y a 10 ans encore, on aurait cherché en vain des projections de documentaires dans les salles, qu'elles soient tchèques ou européennes. Une reconnaissance dont témoigne aussi le florilège de festivals qui leur sont consacrés à travers l'Europe. Côté tchèque, il suffit de mentionner le prochain à partir de ce vendredi à Jihlava. Un mardi soir plein de souvenirs, de la poésie, avec des textes surréalistes et bien sûr leurs auteurs dans le cadre du Centre culturel tchèque au 18 de la rue Bonaparte à Paris. En somme, une belle surprise et surtout une rencontre entre amis. Une fête littéraire vraiment très intimiste à laquelle participait notre correspondant parisien Jiří Slavíček.
Cette fois-ci, on peut le dire, la saison tchèque à Paris a vraiment démarré d'une manière très différente des autres années grâce aux accusations venant de Prague qui visent le célèbre écrivain français d'origine tchèque, Milan Kundera, 79 ans, sur son passé pendant la période stalinienne. Et là, il faut le souligner, la plupart des médias français dits sérieux, que ce soit les stations de radio, de la télévision ou de la presse écrite, lui proposent leurs pages pour se défendre plutôt que de l'accabler. Heureusement, il y a aussi des autres traditions. Les critiques spécialisées font un triomphe aux deux représentations à l'Opéra de Paris où il est difficile de trouver des places. On joue à guichet fermé aussi bien La fiancée vendue de Bedřich Smetana que La petite renarde rusée de Leo Janáček, lui aussi comme Milan Kundera, natif de Moravie. Mais revenons à notre fête de mardi soir. Dans les caves du Centre tchèque à Paris, au 18 rue Bonaparte, qui réunissait les trois poètes d'inspiration surréaliste, Prokop Voskovets, Petr Král et Stanislav Dvorský, avec leurs lecteurs et surtout leurs amis. Présenté par l'organisateur de cet événement, Jean-Gaspard Paleníček, qui a en plus assuré la lecture des textes de Prokop Voskovets et de Stanislav Dvorský, tandis que Petr Král est resté parfaitement bilingue, c'est aussi le même Jean-Gaspard Paleníček qui les a présentés au public. Tous les trois nés pendant la Seconde Guerre mondiale, enfants pendant la période stalinienne, actifs dans le milieu surréaliste tchèque des années 60 et séparés par l'écrasement du printemps de Prague de 1968, ils étaient donc mardi soir à nouveau réunis sans avoir besoin de se justifier. Tout simplement, c'était une vraie réunion de famille. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
Cela fait 4 ans que le festival MOVE anime chaque automne les nuits pragoises avec une série de concerts de groupes tchèques, français, mais aussi brésiliens ou allemands. D'année en année, de nouvelles attractions sont mises en place avec des workshops ou des concours. Et pour cette nouvelle édition, l'installation d'un Magic Mirrors. Anne-Claire Veluire.
C'est avec une programmation assez jazz que le festival MOVE a entamé cette édition 2008 avec la cubano-polonaise Yvonne Sanchez, suivie le lendemain du groupe de jazz français Ozma, présenté par son bassiste Édouard Serro-Guillaume.
On s'appelle Ozma, c'est un quintet de jazz, basse, batterie, guitare, trombone, saxophone. On a commencé au départ en trio et donc on a invité des cuivres pour avoir un propos solistique un peu plus féroce. On fait une musique assez personnelle, avec beaucoup d'influences différentes, beaucoup de jazz parce qu'il y a beaucoup d'improvisation. Très rock aussi, on fait un peu de hip-hop, des influences diverses et variées. On mixe tout ça et ça donne une musique assez personnelle qu'on appelle musique osmique.
À noter que le groupe Ozma, plusieurs fois récompensé dans les concours de jazz, est en tournée européenne soutenue par le réseau des alliances françaises à l'étranger. Le groupe Hocus Pocus, victoire de la musique 2008 dans la catégorie musiques urbaines, s'est produit quant à lui samedi 18 octobre au Palace Acropolis. Souvent décrit comme un mélange de hip-hop et de jazz, Vincile, le MC, présente son groupe.
Hocus Pocus, c'est un mélange qui prend ses racines plutôt dans la musique noire américaine des années 70, et puis une grosse base de hip-hop, bien sûr, un petit peu de chansons françaises aussi dans les influences, dans l'écriture, et c'est ce mélange-là qui fait un peu Hocus Pocus, quoi. On était venu ici au même endroit, au Palace Acropolis, il y a 5 ou 6 ans maintenant. C'était vraiment un de nos premiers concerts à l'étranger avec Hocus Pocus. On en garde un assez bon souvenir. C'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'on connaissait pas bien le lieu, on savait pas qu'il y avait des bars aussi, et du coup il y avait personne dans la salle. salle et au moment où le concert a commencé, tout le monde est sorti des petits tunnels, donc c'est assez drôle à voir. Et puis on est revenu jouer aussi au Hip Hop Camp il y a quelques années. Donc là, qui était un gros festival hip-hop assez mortel. Et puis ce soir, voilà, un cran au-dessus d'il y a 6 ans au même endroit. Vraiment, vraiment sympa aussi. Et ouais, on est content d'être là à chaque fois. C'est plutôt cool.
Fernando Ladero Marquez, directeur de la communication du Printemps de Bourges et co-organisateur de MOVE via l'agence Gâteau Loco Productions, donne ses conclusions sur cette nouvelle édition du festival.
On a pour la première fois fait venir à Prague un Magic Mirror. Donc le festival s'est déroulé en 3 lieux différents, avec donc chaque soir des genres musicaux différents également. Et puis bon, là ce soir on termine avec un super concert de Hocus Pocus. Donc je pense que c'est une bonne édition qui nous laisse penser que l'an prochain on pourra encore développer une fois de plus le festival et amener d'autres choses, d'autres nouvelles idées évidemment, plus originales. Enfin bref, changer un peu le festival tous les ans avec des nouvelles choses.
L'année dernière, vous aviez organisé des workshops. Est-ce que ça continue cette année?
Cette année, il y a eu un concours national qui a été organisé dans tout le pays pour des nouveaux groupes, un peu comme on fait à Bourges avec le réseau Printemps et les Découvertes. Donc c'est bien parce qu'il y a eu, je crois, plus de 250 groupes qui sont inscrits. Et c'est intéressant de voir un petit peu une vitrine de ce qui se passe aujourd'hui, comment les groupes se développent, se positionnent, etc. Donc c'était assez intéressant. C'était une des choses nouvelles qu'il y avait cette année. Hein.
Le Magic Mirrors, installé en face de la station de métro Relais-Chovice, restera à Prague jusqu'au 29 octobre prochain.
Un petit détour chez Monsieur Tout-le-Monde, sofa, chips et télécommande, je me demande. En vrai, mais comment? Cet inconnu devient quelqu'un de tendre une fausse note. Et au prix de quelques larmes versées aura gagné leur vote. La dépression est de bon ton, maman est fière de son fiston qui a chanté l'envie d'aimer sans écart d'un mouton. Le guitariste donne tout, mais sa gratte n'est pas branchée. Et je me rends compte que dans ce morceau, il n'y a que du clavier. Un duo commence, elle oublie texte, mélodie. Personne n'y voit que du feu et tout le public applaudit. Comme toujours, l'épilogue idéal. Moi aussi, je veux vivre dans un catalogue Ikea. Je suis scotché, car au fond, ces comptes donnent de l'espoir. Je me dis que je sais rien faire, mais que ça empêche pas d'être une star. À quand la gloire, l'Oscar, pour mon rôle d'anonyme. Voici mon pseudonyme. I'm Mr. No.
Et après ce récapitulatif des faits et événements du jour, la rubrique historique comme tous les milieux de semaine.
Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
L'affaire Kundera a connu un rebondissement il y a une dizaine de jours. Nous revenons aujourd'hui sur le parcours de Milan Kundera pendant les années 50 et 60. Avant de juger ou non l'homme, il est en effet nécessaire de comprendre cette période de mutation et d'éviter toute histoire polémique. Mais comment puis-je dénoncer quelqu'un que je ne connais pas? Ainsi s'exprimait Milan Kundera à propos de la récente polémique après un très long silence médiatique. En mars 1950, Miroslav Voracek, pilote et agent de l'Ouest, est condamné à 22 ans de prison. 14 seront effectués suite à une dénonciation. Il sera affecté aux travaux forcés dans des mines. Parmi les personnes qui connaissaient ses activités figurait une certaine Iva Militka. 17 ans plus tard, en 1967, paraît La plaisanterie. Dans ce roman, Milan Kundera raconte l'histoire d'un jeune homme arrêté et envoyé dans les mines de charbon suite à une lettre sarcastique sur le parti, écrite par dépit amoureux. Les points communs entre les deux histoires, réalité et fiction, sont troublants. La présence d'une femme comme point de départ, l'arrestation et l'envoi dans les mines. Une coïncidence troublante qui soulève bien des hypothèses, toutes plus fragiles les unes que les autres. À commencer par celle d'une manipulation du régime. Le rapport de police accablant Kundera pourrait-il être un faux, datant non pas des années 50, mais de la fin des années 60? En 1967-68, Kundera devient une grande figure de l'opposition politique au régime. Il constitue une proie d'autant plus intéressante qu'il est déjà connu à l'étranger pour ses livres. Le système communiste plaçait le mensonge au cœur de sa stratégie. La question de la manipulation des archives est donc légitime. La police politique n'a-t-elle pas tenté de décrédibiliser Kundera en lui faisant jouer le rôle du dénonciateur? Aussi tentante soit-elle, la thèse du faux rapport de police soulève pourtant une objection de taille. Pourquoi la police ne s'est-elle jamais servie de ce faux s'il s'en agit d'un? Une chose est sûre, si Milan Kundera est dans les années 50 un membre convaincu du Parti communiste tchécoslovaque, il est en fait représentatif de sa génération, ni plus ni moins. L'écrivain est né en 1929. Il appartient à ces Tchèques qui ont vécu, enfants puis adolescents, la plus longue occupation allemande en Europe, puisqu'elle commence dès 1938 avec l'invasion des Sudètes. La même année, les Français et les Anglais livrent l'allié tchécoslovaque à l'ogre hitlérien. Après-guerre, le ressentiment des Tchèques face aux Occidentaux est palpable. Quant à leur sentiment de gratitude envers l'URSS, il est immense. Un sentiment alors partagé partout en Europe et même chez les non-communistes. En Tchécoslovaquie, comme en France, ils sont nombreux les artistes et les écrivains qui croient sincèrement que le communisme réalisera une société plus juste. Lorsque le coup de Prague a lieu en 1948, Kundera à 19 ans, l'âge de toutes les utopies. Le romancier Pavel Kohout présente de nombreux points communs avec lui. Il appartient à la même génération puisqu'il est né en 1928, soit un an avant. Comme Kundera, il sera membre du Parti communiste et de l'Union des écrivains dès les années 50, et comme lui, il fera partie en 1967 des écrivains s'opposant ouvertement au régime, devenant un symbole du printemps de Prague. L'historien Vladimir Koussin dit en parlant de cette génération « La plupart de ceux qui dans les années 60 cheminèrent vers le changement politique avaient cru au stalinisme encore peu de temps auparavant. 15 ans plus tard, le recul aidant, ils prenaient conscience des implications complexes de leur propre expérience. » Et cette expérience, c'est celle d'une société qui dans les années 50 est basée sur le système de la délation, bien sûr encouragée par le régime. Les Tchèques sont constamment surveillés, du domicile jusqu'au lieu de travail. Les grandes purges du début des années 50 font des ravages dans la population. On évoque toujours les grands procès politiques, mais ils furent une partie infime de la répression, celle-ci touchant la nation dans son ensemble. On estime que 100 000 personnes furent arrêtées et jugées, et que 80 000 auraient été condamnées au camp de travaux. Les détenus étaient souvent transférés dans les mines de radium, comme à Yakimov, en Bohême du Nord. C'est ce qui arrivera notamment à Jerzy Mucha, écrivain et fils du célèbre peintre, qui décrira le camp de Yakimov dans Les Soleils Froids, publié en 1968. La même année, Milan Kundera était invité à donner une interview à la télévision française pour la sortie de son roman « La plaisanterie ». Il soulignait que la plupart des lecteurs et des critiques voyaient dans ce roman un livre politique, alors qu'il s'agissait pour lui d'un roman d'amour. Un roman d'amour dans des circonstances historiques sans précédent, ajoutait-il. Doit-on voir là une piste éventuelle pour comprendre qui a dénoncé Dvořáček et pourquoi? Après tout, Miroslav Dlask, accusé récemment d'être le délateur de Miroslav Dvořáček par l'historien de la littérature Zdeněk Pešat, était à l'époque le petit ami d'Iva Militka. Le jeu des devinettes n'est en tout cas pas près de finir, vu l'intérêt des médias tchèques pour la polémique. Reste une interrogation en sourdine, si Kundera avait vraiment été le délateur, pourquoi aurait-il écrit un roman reprenant peu ou prou les mêmes événements 17 ans plus tard?
c'est la fin des émissions en langue française de Radio Prague, mais vous le savez, l'info continue sur notre site web www.radio.cz. Merci de votre fidélité, à bientôt, ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.